CFORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à vous tous. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CFORadio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Jacques Potvin, président de JPA International, présent dans 75 pays, et Thierry de Pantou, président de Strafi, une filiale d'EPSA. Bonjour messieurs.
Bonjour Richard. Bonjour.
Alors aujourd'hui, si je vous dis glucoaminoglycane, ça vous fait penser à quoi ?
Rien.
Grand silence.
On sèche.
Bah, nous recevons Suzanne Lippmann, CFO de HTL Biotechnologies. Elle va nous répondre. Bonjour Suzanne.
Bonjour Richard et bonjour Jacques et Thierry. Bah, écoutez, je suis très contente de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous.
On est ravis.
Alors, les gags, c'est des sucres.
D'accord.
Et c'est très difficile à prononcer. Alors bravo que vous y arriviez du premier coup.
Ça fait deux jours que je m'entraîne.
c'est par exemple aussi quelque chose comme l'acide hyaluronique qui est parmi les biopolymères que nous produisons.
On va y revenir. On va y revenir, Suzanne. Je vous poserai la question, rassurez-vous. Je fais un petit bilan de votre parcours, mais c'est pas un bilan, loin de là. C'est un petit retour en arrière. Vous êtes née à Hanovre, en Allemagne. Vous avez été séduite à l'époque par une formation en gestion, moitié en Allemagne, moitié en France. Si je vous dis que la finance est une langue internationale, vous êtes d'accord ?
Absolument. Donc, c'est la manière de laquelle moi je pratique une finance. Ou la finance, et j'ai mis un peu de temps à m'en apercevoir pourquoi ça me plaisait autant, c'est j'adore créer des liens, j'adore les langues, j'adore les maths, et la finance est une vraie langue dans une entreprise et inter-entreprise pour faire se parler des gens, pour leur expliquer ce qui se passe économiquement et opérationnellement, et de créer ces liens-là qu'il faut pour créer de la valeur et faire avancer l'entreprise.
Alors en 92, vous débutez chez Arthur Andersen, mais pas en France, en Angleterre. Et puis 5 ans plus tard, vous entrez chez ADP GSI France. Pour y faire quoi ?
Alors en fait, je faisais déjà beaucoup de fusions-acquisitions chez Arthur Andersen au bureau de Paris, après effectivement avoir été en stage à Londres.
Ouais.
Et j'étais toujours un peu frustrée de ne pas voir comment ces sociétés s'intégraient après leur achat. Et ADP, Automatic Data Processing, qui venait de s'implanter en Europe, m'a permis en fait de quelque part faire diffusion-acquisition pour un seul client dans plusieurs pays et aussi de travailler après à l'intégration de ces sociétés.
Alors ADP, vous allez adorer ça, j'imagine, parce que vous allez y rester 17 ans quand même. Et puis vous allez changer de secteur, d'après ce que j'ai compris, pour une branche pharma. Et c'est là que je crois que vous faites une formation complémentaire à l'INSEAD.
Oui, c'est en fait c'était un après l'autre. Je suis effectivement restée assez longtemps chez ADP, mais aussi parce que j'ai changé de poste tous les 3 ans à peu près, et on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Et puis à un moment donné, on se dit quand même quelque part, il aurait fallu que j'aille aux États-Unis pour continuer à évoluer.
Ouais.
Et là, c'était le bon moment aussi pour changer, et j'ai tout changé. J'ai changé de secteur, j'ai changé de posture, je suis passée du DAF TBU à DAF tout court et sous fond, donc un autre setting. Et effectivement, j'avais déjà depuis longtemps dans ma tête le fait de faire une formation, un Master in Change. Mais ce que j'avais remarqué, pour avoir fait beaucoup de projets de transformation, de changement dans une entreprise un peu en dilettante, ce qui c'est toujours l'humain qui freine, ou l'humain qui freine pas et que c'est là que ça marche. Mmh. Et j'avais envie de comprendre un peu plus toute la dynamique sous-jacente.
Très bien. Et alors, en 2020, vous entrez chez HTL Biotechnologies, donc une entreprise, vous le disiez tout à l'heure, qui produit des acides hyaluroniques. Là aussi, je me suis entraîné. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va revenir dessus. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Tout à fait. En fait, des biopolymères. Hein. Donc, nous sommes une entreprise de biotech et on est active à la fois dans le développement et dans la production de biopolymères par fermentation. en grade pharma et qualité injectable. Et c'est ça qui est important. Parce que ces biopolymères, techniquement, c'est des medical devices, mais nous, on les fait vraiment en normes pharma à utilisation pour des applications esthétiques de la rhumato et de l'ophtalmo. Parce qu'en fait, c'est un produit très visqueux et donc c'est très très bien toléré par le corps humain et c'est utilisé dans diverses applications comme un filler, comme on dit, pour en fait combler que ce soit des rides, que ce soit des cartilages dans un genou ou des espaces lors des opérations de la cataracte. Et il faut que ce soit très, très pur et très sûr. Et c'est ce type de produit que nous faisons en directement ou chimiquement modifié. Nous sommes basés en Bretagne.
Très bien. Pour les rides, c'est formidable. Je vais me renseigner. Allez, Jacques Potvin.
Alors, c'est formidable d'être installé en Bretagne. J'ai quelques attaches bretonnes en ce qui me concerne. Vous êtes dans les biotech, et donc j'imagine que vous avez des vrais sujets en termes de comptabilisation des frais de recherche et de développement. Vous êtes protégé par des brevets. J'imagine que c'est un sujet important pour vous en tant que CFO.
Alors, la discrétion en général et la protection des secrets de fabrication est très, très importante. On dépose aussi des brevets, on travaille avec des organismes de recherche et aussi nous bénéficions de crédits impôts recherche et nous investissons pas mal d'argent là-dedans parce qu'il faut être à la pointe et travailler aussi avec les clients aux produits de demain.
Donc, ce n'est pas un sujet comptable pour vous ? Vous pensez tout en frais généraux ?
C'est un sujet aussi, je veux dire, évidemment, de suivi comptable, parce que si on ne suit pas bien ses coûts, on a du mal à les imputer dans un crédit impôt recherche, par exemple. Mais c'est surtout aussi un vrai sujet de proximité client et un sujet vraiment, vraiment business, et la comptabilité, elle est là pour soutenir tout ça et arriver en fait à suivre ces coûts-là de façon à ce qu'on puisse bénéficier un maximum des dispositifs qui s'offrent à nous.
Vous faites, j'imagine, vos comptes en normes françaises ?
Oui, tout à fait. Après, c'est assez courant aussi de les faire en IFRS, mais on n'a pas beaucoup de différences. Donc, on est effectivement en normes françaises.
Alors, vous projetez de vous installer aux États-Unis et en Asie à travers des filiales, à travers des succursales. C'est quel est votre projet à la fois, puisque vous occupez du juridique et du fiscal. Quel est votre projet juridique ? Est-ce que vous avez choisi l'État qui vous paraissait le plus attirant pour vos activités ?
Excellente question.
En fait, tout ça, et peu importe que ça soit HTL ou ailleurs, c'est les fonctions juridiques, légales, fiscales, sont vraiment là pour soutenir le business. Donc, il faut trouver la bonne solution pour s'implanter de façon durable et sans prendre des risques. Donc, ça peut aller, par exemple, dans un premier temps, par du portage salarial, si vous voulez juste avoir quelqu'un sur place qui explore le marché. Et puis, par la suite, quand vous avez un vrai projet d'implémentation, c'est-à-dire où vous rachetez quelque chose, où vous créez une société. Mais je suis assez partisane de solutions souples au départ, jusqu'à ce qu'une entreprise sache vraiment ce qu'elle veut faire.
Très bien.
Jacques, une dernière question.
Oui, l'intelligence artificielle dans la comptabilité, dans votre quotidien, qu'est-ce que c'est ?
Alors là, dans le quotidien, il y a beaucoup d'intelligence humaine.
Heureusement.
J'ai une autre casquette aussi de laquelle on n'a pas encore parlé, que je suis présidente dans un large réseau des financiers d'entreprise qui s'appelle FIPLUS, et nous avons justement exploré le sujet de l'intelligence artificielle pour les fonctions financières d'entreprise pour comprendre comment aussi à un niveau ETI on peut en bénéficier, et on est sorti de ça avec la forte conviction qu'il s'agit plutôt d'intelligence augmentée, C'est-à-dire qu'on peut à la fois en première instance automatiser des tâches, y compris dans des petites entreprises, par des robots ou des espèces de macros programmés, et par la suite profiter, quand on a la chance d'avoir par exemple un ERP, d'une analyse de données plus poussée. Mais on a quand même, pour faire vraiment de l'intelligence artificielle du prédictif, il faut quand même avoir une grosse quantité de données, qui n'est pas le cas de la plupart des PME et ETI.
Merci Suzanne.
Thierry de Pontou.
Oui Suzanne, si on regarde votre parcours, finalement la pharmacie avec Ethypharm, maintenant les biotechnologies, finalement vous choisissez toujours les secteurs qui sont porteurs, là vous faites finalement les bons choix, non ?
Alors, j'espère que ce sont les bons choix. En tout cas, j'ai effectivement remarqué, mais ça c'est aussi un enseignement qui est venu petit à petit, je suis meilleure dans des contextes de croissance, à structurer, à accompagner, à trouver des solutions pour, par exemple, s'implanter quelque part. Et comme vous avez dit, je suis allemande, je vis en France, je parle plusieurs langues, je connais plusieurs cultures. Aussi, faire le go in between dans ce type de projet, je suis meilleure là-dedans, donc à structurer qu'à restructurer. Et c'est pour ça, je dirais naturellement, j'ai choisi ce type de secteur plutôt porteur.
Ben bravo, plutôt deux belles entreprises. Et maintenant, si on dit un mot des LBO, parce qu'effectivement, le point commun également entre Ethypharm et HTL, c'est que ce sont deux LBO. Bon, j'ai compris que vous n'alliez rien nous dire de secret sur l'avenir de HTL et le prochain LBO. Mais qu'est-ce que vous dites du marché du LBO actuellement ? On voit plein de choses, des cessions, des refinancements, des build-up. Il y a les multiples qui sont à la hausse. Quelle est votre vue du marché du LBO ?
Mais quelque part, le marché était déjà très actif avant la crise du coronavirus, et il y a énormément ce qu'on appelle du dry powder, c'est-à-dire de l'argent dans les circuits, de l'argent, des fonds qui sont investis à travers les fonds. Alors, j'ai pas encore lu exactement le dernier rapport qui est sorti à ce sujet-là par Bain Capital, mais il me semble qu'on est pas très loin des 3 trillions de dollars, donc c'est un montant vertigineux. Il faut que cet argent travaille. Donc évidemment, le marché, il se porte sur des actifs à potentiel de croissance, sur des actifs résilients, dont la santé et la pharma font partie, mais pas que. Mais en tout cas, on remarque globalement, et ce que me disent aussi mes collègues autres CFO sous LBO, avec qui je peux échanger, on a des vrais grands écarts en ce moment entre le temps court et le temps long. C'est-à-dire le corona a quand même forcé la plupart des entreprises, même celles qui allaient bien, de se concentrer sur les très courts termes, sur le cash, sur des simulations, sur les what if, qu'est-ce qui se passe, la scénarisation des forecasts, des reprévisions, je dirais à tout va, donc du très très court terme, la préservation de la marge et ainsi de suite, et aussi du long terme, quelque part, comment on se reprojette avec l'impact de cette crise, et comme le marché est quand même très actif aussi, certainement pour quelques-uns, une accélération même des horizons de sortie, comme pour d'autres, une prolongation et donc la nécessité d'un autre projet. Donc en ce moment, il y a beaucoup de grands écarts de cette nature.
Allez Suzanne, vous êtes, c'est la question la plus importante de cette émission, vous êtes, il paraît, la spécialiste mondiale de la terrine de saumon, est-ce que c'est vrai ?
Alors mondial, je ne sais pas, mais à entendre mon entourage, il apprécie énormément, et j'ai pensé par la suite. Donc évidemment, il y a la terrine de saumon pour laquelle j'ai une très bonne recette d'un très bon livre de cuisine de Guy Martin, mais oui. Aussi une de mes spécialités, c'est la pâtisserie de Noël allemande, qui est extrêmement appréciée aussi. C'est-à-dire, c'est des petits gâteaux de toutes les formes, de toutes les couleurs, qu'on fait juste avant décembre et qu'on mange pendant tout le mois de décembre. Et ça, j'ai importé ça en France, je l'ai fait moi-même, ça fait partie des choses qui sont immuables et même en confinement, ça s'est fait.
Et ben, vous allez nous dire où vous habitez, on va venir tous ensemble. Merci beaucoup Suzanne, merci à vous Jacques et Thierry. Fin de ce numéro de CFOradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CFOradio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.